me semble être un désordre ou une injustice, quand je suis en présence de ce qui me semble être un désordre et une injustice, je veux jouer ce héros qui rétablit l'ordre. Je m'identifie avec l'ordre. Eh bien, tant que je serai là, ça ne se passera pas comme ça. Oui, exactement ce que dit tout homme qui est en colère. Tant que je serai là, ça ne se passera pas comme ça. Oui. Alors, vous prenez la défense du faible qui subit une injustice. Je pourrais vous en raconter des histoires de colère, parce que c'est extraordinaire de voir les saints de colère, qui sont toujours des colères passionnelles, mais qui peuvent être devenir saints après. Mais au fond, au début, vu de l'extérieur, je ne sais pas si elles sont saintes ou passionnelles. Mais c'est extraordinaire de voir ce que c'est que la colère. C'est beau, du reste, de voir la colère. On a tous aimé, quand on était gosses, de mettre en colère des pions, des professeurs ou des surveillants, surtout les surveillants. Les surveillants, c'est extraordinaire de mettre en colère les surveillants. Enfin, surtout dans des collèges qui sont bien tenus, qui veulent la discipline, la survie. Alors, mettre en colère des pions, c'est extraordinaire de voir ça. Vous savez, la colère, c'est un petit peu comme les éclairs dans un ciel nuageux, dans un ciel orageux. Alors, vous voyez ça, flambé, extraordinaire. Et c'est très dangereux de mettre les gens en colère. Parce que quand les gens sont en colère, ils peuvent très bien faire des actes qui dépassent la portée normale. Vous savez que quand on est boulagé, on n'aime plus les gens en colère. Et quand on est gosse, on aime de mettre les gens en colère. Les gosses aiment énormément ça. Surtout les personnes sérieuses. Plus les personnes sont sérieuses, c'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir l'air d'être trop sérieux devant un gosse. Parce qu'il va vous mettre en colère. Il va saisir les points vulnérables que vous avez et il va vous mettre en colère. Et il sera très heureux de vous mettre en colère parce qu'à ce moment-là, vous apparaissez comme quelqu'un qui n'est plus maître de lui-même. Et alors, s'il n'est plus maître de lui-même, un homme sérieux, c'est toujours très curieux de voir un homme sérieux qui glisse et qui tombe. C'est vrai. Eh bien, la colère, c'est un homme sérieux qui glisse et qui quitte la norme habituelle. Car le gosse regarde ça avec une joie extraordinaire, surtout quand on est plusieurs comme spectateurs. Alors, c'est encore plus drôle à faire, encore plus étonnant. Et réfléchissez à telle ou telle colère que vous avez eue. De personnes sérieuses qui se sont mis en colère soudainement. La colère, c'est la passion la plus complexe. Saint Thomas a dit que la colère, c'est la passion la plus noble, parce que c'est la plus proche de l'intelligence. Donc si vous êtes colérique, dites-vous qu'il y a un peu de noblesse en vous. Mais alors, faites attention, ne soyez pas tout le temps en colère, mais il y a un petit peu de noblesse en vous, parce que c'est l'intelligence qui veut rétablir l'ordre. Alors on se met en colère pour rétablir l'ordre. C'est pour ça que dans la colère, il y a le bien et le mal qui sont présents l'un dans l'autre. Et on veut rétablir l'ordre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contraire à la colère. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile. La colère, d'une certaine manière, est un terme. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est en colère, attendez qu'il enlève sa colère. Parce que si vous attaquez la colère, vous augmentez la colère. S'il n'y a pas de contraire, la haine, vous battez la haine par l'amour. Et quand il s'agit de la colère, tout peut conquérir la colère. C'est très fluide. Tout peut conquérir. Toutes les passions peuvent aboutir à la colère. Elles forment une synthèse de toutes les passions. C'est pour ça que c'est dans la colère qu'on voit le mieux les passions. Ce n'est pas ici un texte que je vous aurais lu, parce que c'est un texte très 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 beau, très extraordinaire, d'un stoïcien, Sénèque, sur le déira. Il y a tout un petit dialogue sur le déira, donc au sujet de la colère. Vous comprenez que les stoïciens disent « les passions sont mauvaises ». Et pour montrer que les passions sont mauvaises, on montre que l'homme en colère n'est plus maître de lui. Si l'homme n'est plus maître de lui, il n'est donc plus un homme. Et la colère fait que l'homme devient comme un chien enragé. il n'a qu'un seul désir, c'est de mordre. Et l'homme colérique n'a qu'un seul désir, c'est de détruire. Et ça, c'est vrai. C'est que la colère fait briser. On brise quand on est en colère. On brise tout ce qu'on a sous la main. Après, on en est désolé. N'est-ce pas ? Et si vous avez n'importe quoi sous la main, vous brisez. Parce que là, vous montrez que, de fait, vous détruisez ce qui existe et vous voulez rétablir un nouvel ordre. Donc, la colère, c'est la passion dominante. Vous avez deux passions qui sont particulièrement importantes à regarder, la colère et l'amour. L'amour, c'est la première passion et le terme de toutes les passions, c'est la colère. Alors, vous avez l'amour et la colère qui sont les deux passions extrêmes. Alors, c'est très important de regarder ce que c'est que la colère. Parce que chacun d'entre nous, nous avons dans notre âme spirituelle, dans notre âme humaine, nous avons des vulnérabilités différentes. Chacun d'entre nous. Les uns sont particulièrement vulnérables vis-à-vis de l'erreur. Parce qu'ils ont un très grand amour de la vérité. D'autres sont particulièrement vulnérables à l'égard de l'injustice, parce qu'ils ont un grand amour de la justice. D'autres sont vulnérables particulièrement vis-à-vis d'un ordre visible, un ordre matériel. Il y en a qui doivent ordonner après avoir travaillé, tout est mis en ordre. Alors, pour les uns, l'ordre, c'est de mettre les grandes casseroles d'abord, mais les petites casseroles en dernier lieu. Pour d'autres, au contraire, c'est mettre les petites casseroles en premier lieu et les grandes casseroles en dernier lieu. Alors, évidemment, si elle voit que l'ordre qu'elle voulait n'est pas établi, on se met en colère. C'est tout le temps comme ça. Les fenêtres fermées et les fenêtres ouvertes. Parce que pour certains, les fenêtres sont faites pour être fermées. D'autres, les fenêtres sont faites pour mettre, se mettre en ouvertes. Ça dépend des spiritualités. Alors, pour certains, le désordre, c'est de voir les fenêtres ouvertes. Pour l'autre, au contraire, le désordre, c'est de voir les fenêtres ouvertes. C'est de voir les fenêtres fermées. Bien les portes, si vous voulez. Et ainsi de suite. Et donc, nous avons chacun d'entre nous des vulnérabilités cachées. Nous sommes vulnérables à l'égard de tel ordre que nous aimons particulièrement. Et nous nous mettons en colère quand l'ordre que nous aimons semble être détruit. Ça, quand on vit en communauté, c'est extrêmement significatif des colères. Parce qu'on voit tout de suite les vulnérabilités. Je prends un exemple, si vous voulez. Je pourrais en prendre des quantités. Des exemples extraordinaires. Parce que quand on vit en communauté, on a des exemples merveilleux, au bout d'un certain temps, des colères de Saint-Jean. Parce que ce sont des confrères religieux, c'est des agents, mais qui gardent leur caractère et leur tempérament, et là on voit une colère. Il y en a une sainte colère, là c'est une sainte colère. C'est la colère du Christ qui prend le fouet pour chasser les vendeurs du pain. C'est très extraordinaire ça. Jésus qui se met en colère quand il entre dans le temple et qui voit les marchands. Qu'ils sont là, qu'ils ne sont pas à la place qu'ils voudraient, qu'ils devraient être. Or, il semble bien que Jésus, depuis 12 ans jusqu'à 30 ans, ait été chaque année plusieurs fois dans le temple. Dans sa vie cachée, Jésus gardait le silence devant ce désordre. Quand il commence sa vie publique, Jésus se met en colère devant ce désordre. Et c'est là où je dis que la colère du Christ est une colère sainte. C'est une colère sainte. Pourquoi ? Parce que justement, s'il ne se mettait pas en colère, il serait complice de ce désordre. Et quand vous êtes en face d'un désordre, liturgie par exemple, ça peut arriver. Vous voyez certains prêtres qui disent la messe d'une façon telle, on dit non, je n'ai pas le droit de faire ça. Vous vous posez la question, faut-il intervenir ou faut-il patienter? Il y Il y a des fois que vous ne vous posez pas la question, parce que la colère est tellement forte que vous partez en claquant la porte. Alors, ça, c'est une manière de manifester cette colère. On part en claquant la porte. C'est une manière d'exprimer qu'on n'est pas d'accord. Pas ici. Hein. Là, c'était prémédité. Là, c'était pas choisi comme moment pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mais Jésus, lui, prend le fouet, et il prend le fouet dans un geste de colère. La colère peut devenir sainte quand elle est assumée par l'autre. Et ce geste de colère du Christ nous révèle la vulnérabilité du cœur de Jésus. Jésus ne peut pas souffrir qu'on manque de respect à la majesté souveraine du Père. Et ce manque de respect à la sagesse souveraine du Père, parce que le temple, c'est le lieu de la prière, c'est le lieu donc qui est réservé à Dieu, qui est consacré à Dieu. On ne peut pas faire de ce lieu un lieu de commerce. Faire de ce lieu un lieu de commerce, c'est un manque d'amour vis-à-vis de Dieu. C'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. Et Jésus alors est en colère devant ce manque de respect. Et Jésus brise. Il se met en colère. Il chasse les vendeurs du temple. C'est une très belle colère. C'est un très beau colère. L'éclair dans un ciel orageux. Mais ce geste de Jésus a dû, parce que la colère quand elle est sainte, hein, n'oubliez pas, la colère quand elle est sainte, elle est encore beaucoup plus forte qu'une autre colère. Parce qu'elle est absolument assumée par l'amour. Et donc elle va jusqu'au bout. Mais ce sont des colères froides. Les colères saintes sont toujours des colères froides. Quand on se met en colère, on sait qu'on est en colère. Et qu'on veut être en colère. Et qu'on veut être en colère pour manifester qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui est contraire à un ordre de justice, qui est contraire à un ordre dû à ce lieu qui est le temple, puisque c'est consacré à Dieu. Alors on se met à ce moment-là en colère pour manifester le désordre et rétablir l'ordre. Donc vous voyez, la colère est quelque chose de très grand. Alors, il faut évidemment, autant que possible, que toutes nos colères soient saintes. Et quand toutes les colères sont saintes, il y en a des quantités qu'on réprime. Parce que Jésus, de 12 ans à 30 ans, a assisté au même désordre et ne s'est pas mis en colère. Alors, quand vous aurez subi de 12 ans à 30 ans, ça représente quand même un petit espace, n'est-ce pas, être capable de se taire et d'être en patience. De patienter. Patienter, c'est la force. C'est la vertu de force qui nous permet de patienter. Alors, à ce moment-là, quand on a patienté pendant tant d'années, la colère qu'on veut est une colère sainte. Et les colères purement passionnelles, alors là, c'est bien. C'est tout à fait le lait qui se met à bouillir. Et quand le lait se met à bouillir, ça dépasse un peu tout, ça dépasse tout. Alors ça, c'est une colère qui monte, qui est passionnelle, qui dépasse les bornes. Bon, il y a la colère. La colère présuppose toujours un amour. La colère présuppose toujours une haine. La colère présuppose toujours une guerre. Elle présuppose toujours un désir. Elle présuppose toujours une fuite. Toutes les passions sont présentes dans la colère. C'est le nœud dernier. C'est pour ça que c'est si riche la colère comme passion. Tandis que la passion amour, c'est la passion la plus sainte. C'est la passion fondamentale première. Alors si nous voulons savoir ce que c'est que l'amour, on doit regarder toujours la passion amour. Et c'est à l'égard de la passion amour qu'on comprend ce que c'est que l'amour. Si vous voulez, je peux regarder avec vous qu'est-ce que c'est que cette passion amour. Parce que ça, c'est intéressant. On n'a pas le temps d'étudier toutes les passions. Alors, on étudie simplement la passion amour. Ça, nous avons tous des réunions pour le faire. Nous sommes tous un peu passionnés. Nous n'avons qu'une passion, nous ne sommes pas ici. Nous avons la passion de la vérité, la recherche de la vérité, c'est une passion. Alors nous avons ce désir. Alors, la passion, amour, regarde bien sensible. Le bien sensible que je connais, il y a une connaissance. Tout l'amour passionnel présuppose une connaissance. Il faut connaître ce bien sensible pour que, de fait, il y ait en moi une réaction. Cette réaction de l'amour passionnel. Alors, qu'est-ce que fait cet amour passionnel? Cet amour passionnel me connaturalise avec ce bien sensible. Je crois que c'est la première chose qu'on doit dire. C'est propre de l'amour. C'est de faire qu'affectivement, je suis proche du bien sensible. Je me mets tout proche. Je me connaturalise vis-à-vis de ce bien. Et parce que je me connaturalise à l'égard de ce bien, je suis en union avec lui. L'union affective, l'union intentionnelle, pas nécessairement l'union réelle. L'union affective. Je porte ce bien sensible en moi. Je suis uni à ce bien sensible. Donc, une union affective. L'amour fait toujours une union. L'amour me connaturalise, l'amour passionnel, me connaturalise avec le bien sensible, et il y a l'union. Et c'est pour ça que saint Thomas dira que l'amour passionnel me liquéfie. De dire que l'amour passionnel me liquéfie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour passionnel, me mettant en union avec le bien sensible, je deviens accueillant vis-à-vis de ce bien sensible. Très curieux. Dès qu'il y a l'amour passionnel, on devient accueillant. On écoute l'autre. Ça veut dire, dès qu'on aime quelqu'un, on l'écoute. Ah, je l'ai pour toi, ce que tu as vécu, j'ai tout mon temps. Parce que spontanément, on dira. Tandis que vis-à-vis d'un autre, on dira non, c'est possible. Je peux vous donner le meilleur, mais non plus, c'est impossible. Parce que je garde ma prudence, je sais très bien. Tandis que dès que je suis en présence d'un bien sensible, dès que je suis liquéfié. Il ne faut pas aller trop loin, mais je suis liquéfié, complètement liquéfié. Je suis donc dans une attitude d'accueil. Et je suis uni affectivement à ce bien. Oui, c'est la connaturalité et cette union affective qui est, je crois, est la liquéfaction. Je suis pris, tellement pris, que le bien sensible demeure en moi. Il y a les deux aspects. Je le porte en moi, je l'accueille, et je suis accueillant vis-à-vis de ce bien sensible. Et ce bien sensible, alors, devient mon bien. Ça devient mon bien, ça c'est sûr. Par la passion, le bien sensible devient mon bien. Puisque je vous ai dit que toute passion d'amour est accaparante et captative. Je veux posséder ce bien. C'est mon bien. Et c'est mon bien qui est, et que je veux être de plus en plus uni. Alors, de cette union affective, je vais essayer l'union réelle. Bien évident, chocolat. J'ai un amour affectif vis-à-vis du chocolat. C'est très très bien. Mais vous comprenez très bien que ce n'est pas suffisant d'avoir une union affective. Je veux avoir une union réelle. C'est-à-dire, je veux manger. C'est tout simplement ça, une union réelle. C'est de manger le chocolat. Alors, quand je mange, j'ai une union réelle avec le chocolat. Et quelquefois, alors c'est là où la jouissance arrive. Vous voyez, la jouissance arrive après. Dans l'amour passionnel, il y a l'union affective. Et cette liquéfaction du cœur sensible, du cœur passionnel. Mon cœur, il est fait pour aimer. Et mon cœur passionnel, il bat très fort quand il aime. Il y a une émotion, il y a la fébrilité. Ça, c'est aussi très fort quand il s'agit d'amour passionnel. Il y a la fébrilité. Tant que je ne possède pas, il y a un risque de perdre. Alors, je suis bien fébrile. La fébrilité est un signe de l'amour passionnel. Parce que cette union affective n'est pas l'union effective, n'est pas l'union réelle. Alors, parce que ce n'est pas l'union réelle, il y a une fébrilité. Il ne faut pas attendre, il faut aller vite. L'homme passionné ne peut pas attendre. Ça, c'est effrayant de faire attendre. C'est effrayant, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que cet amour passionnel est fait pour lui. Un amour spirituel, c'est tout à fait différent. Nous allons voir. Si je dénote ce que c'est que l'amour passionnel, je crois que ce sont les notes caractéristiques que nous sentons très bien dans tout amour passionnel. Donc, la passion est éveillée. Enfin, la passion est éveillée quand il y a un petit peu de feu. Vous voyez? Alors, il y a la fébrilité en moi qui consiste justement à vouloir posséder le plus vite possible ce bien parce qu'il pourrait l'échapper. Un autre pourrait le prendre. Un autre pourrait le prendre. Vous comprenez? Il est extérieur à moi. Je ne le possède pas. Alors, parce que je ne le possède pas, l'autre pourrait le prendre. Donc, il y a la fébrilité. Mais ce qui explique les impatiences. Tout amour passionnel va être impatient. C'est pour ça qu'il est fébrile. On ne peut pas attendre. Voilà les notes particulières de l'amour passionnel. Donc, nous avons 11 modalités de cet amour passionnel dans les 11 passions. Je vais regarder maintenant une quatrième forme, une troisième forme d'amour. Je ne l'ai pas située ce matin, mais je la situe tout de suite maintenant. C'est de montrer l'amour imaginatif. C'est quand même très important. C'est l'amour à l'égard d'un idéal. Un amour imaginatif. Parce que l'idéal n'est pas un bien absolu. C'est un bien que j'ai imaginé, l'idéal. Alors on peut très bien être pris par un amour esthétique, un amour idéal. Je me suis fabriqué un idéal de vie. Et dans ma jeunesse, on m'a toujours parlé de quelqu'un, c'était un ami de mon grand-père, qui avait déclaré qu'il ne se marierait qu'avec Miss Idéal. Et puis un bon jour, il a appris à ses amis qu'il allait se marier. Alors tout le monde a été voir Miss Idéal. C'était quelque chose d'extraordinaire. On peut très bien avoir un désir d'épouser uniquement la personne parfaite qui soit au monde. C'est très dangereux, parce qu'on la cherchera indéfiniment. Vous voyez, on ne trouvera jamais le qui sont bien. Ça, c'est évident. C'est qu'on a, quand on ne peut voir jamais le garçon parfait qui a toutes les qualités. Non, c'est impossible. Parce que le bien personnel, il est plus limité. Tandis que l'idéal, nous le rendons absolument idéal. Il n'existe pas d'idéal, il n'existe que dans mon imagination. Alors il y a un amour comme ça, il y a un amour imaginatif et un amour idéal. C'est l'amour au clair de lune. C'est un amour particulier, très spécifique, très particulier. On cherche ça. Alors c'est très esthétique. C'est très esthétique parce que dans cet amour, la connaissance joue un rôle très très important. Vous voyez, ce n'est plus le bien, c'est la connaissance. C'est un amour possible. Évidemment, c'est un amour possible. Ce n'est pas un amour qui est réalisé. C'est une possibilité. Je m'imagine que dans un rêve, si je pouvais réaliser ça. Alors, quelquefois, c'est très tenace. Hein. J'ai des êtres un peu imaginaires et esthétiques. Ça peut durer très, très longtemps. Alors, ils croient aimer quelqu'un et en réalité, ils aiment un idéal. Alors, ça, c'est peut-être catastrophique. Ils aiment plus l'idéal que la réalité. Alors, quand ils aiment plus l'idéal que la réalité et qu'ils aperçoivent que la réalité ne correspond pas à l'idéal, à ce moment-là, c'est catastrophique. Ça peut expliquer certaines ruptures, certaines tristesses, certains replis. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas aimé telle personne, ils ont aimé un idéal. Ça, il faut signaler ça, parce que nous portons tous en nous ça. Surtout si on est un peu poète, si on est un peu artiste, vous voyez, sur les bords. Un petit peu ça chez nous, on désire un idéal. Comme dans la virtueuse, il pourrait y avoir un idéal de virtueuse. Ah, ce n'est pas un idéal qu'on cherche, c'est le Christ. Le Christ n'est pas un idéal. Il faut bien distinguer les deux choses tout à fait différentes. Un idéal de vie, ce n'est pas chrétien, si vous voulez. on dit tout le temps, j'ai un idéal de vie. Attention, 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 c'est pas ça. Il faut aimer une personne. C'est pas du tout la même chose que l'idéal de vie. Parce que quand on aime un idéal, on cherchera indéfiniment. Et on sera toujours à la recherche de l'idéal. Et l'idéal ne sera jamais le il manque de réalisme. J'ai une personne qui manque de réalisme. Alors à ce moment-là, où elle ne se marie jamais, et ils sont désolés. Je cherche un idéal. Je n'ai jamais rencontré cet idéal. Et je ne le rencontrerai jamais par définition. Dans la vie religieuse, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont dit, moi j'ai la vie religieuse, mais je veux telle vie religieuse, qui n'existe pas. Mais elle existe dans l'idéal. Alors, on est toujours malheureux parce qu'on cherche un équilibre, on ne trouve jamais. Donc, il faut bien comprendre. Ça, alors là, c'est là qu'on voit très bien comment le bon peut être rival du bien. Ça, c'est un très gros problème. Mais c'est un problème très intéressant parce que l'idéal, ce n'est pas le bien, c'est le beau. C'est le beau. Alors, le beau comme tel n'est pas le bien. Le beau a cette possibilité d'exister uniquement dans mon intelligence. Je fabrique le beau. Le bien, c'est une réalité qui existe. Oui. Le beau séduit. Et c'est vrai, je suis séduit dans cet amour de l'idéal. J'insiste un peu parce que c'est très dangereux. Okay. À un certain âge, alors quand on a 16 ans, c'est pas grand-chose. Bon, c'est un idéal comme ça, c'est normal. Mais quand ça reste jusque 30 ans, c'est gênant, on est. Ça fait partie de cette espèce de manque de réalité, tout simplement. On a de la peine à s'attacher à la réalité qui est le bien, et qui est une personne, et non pas le bon. Enfin, le chien qui fait le bon. Ce que c'est une chose assez particulière. Alors quand c'est le chien, c'est pas gênant, mais quand c'est dans notre tête, dans notre cœur, et nous cherchons que c'est l'idéal, le beau c'est et le bien attire. Ce que nous allons essayer de comprendre maintenant. Donc, quatrième forme d'amour, l'amour spirituel. Un amour volontaire. Alors ici, il faut tout de suite bien comprendre. Cet amour spirituel porte sur un bien spirituel. Or, le seul bien spirituel qui existe immédiatement pour moi, c'est la personne humaine. C'est mon bien spirituel. Aimer une personne. Aimer une personne. C'est la personne qui m'attire en tant qu'on est bien. En tant qu'elle est capable, que je suis capable de l'aimer. Demain, nous verrons l'épanouissement de cet amour spirituel dans l'amour d'amitié. Et ici, je vais regarder ce soir avec vous que représente ce premier amour spirituel. Il faut d'abord comprendre, et ça c'est très important pour nous, de comprendre que Descartes, je dis ça parce que nous sommes tous un peu cartésiens, Descartes considère qu'il n'y a pas d'amour volontaire spirituel, comme Freud. La Descartes et Freud se donnent. Pour Descartes, le seul amour qui existe, c'est l'amour passionnel. La volonté est une volonté pour Descartes et une volonté d'efficacité. Vous savez, dans le langage français, il y a un petit quelque chose comme ça qui reste. Quand vous opposez un homme volontaire et un homme de cœur, dites à cet homme, il est merveilleux, c'est un homme de cœur, il sait aimer. Mais il manque un peu de volonté. On a tous un profil comme ça. Pour un homme, c'est gênant. Pour une femme, ça pourrait aller. N'est-ce pas ? Mais pour un homme, c'est gênant. Comme pour une femme aussi, c'est très gênant. Dire, ah, cet homme, c'est un homme de cœur, il est merveilleux, il a un cœur d'or. Mais on ne peut pas monter sur lui, il manque de volonté. qui manque d'efficacité. C'est vrai, en fait, on fait l'opposition, vous voyez, dans le langage. Parce que Descartes a marqué très fort le langage. Ça, c'est le langage du XVIIe siècle. On a opposé la volonté et le cœur. Ça, c'est très grave comme opposition qu'on a faite. C'est Descartes qui a fait cette opposition. Entre le point de vue cœur, alors le cœur, c'est la passion. Un homme de cœur, c'est un homme généreux. C'est un homme qui donne tout ce qu'il a. Alors ça, c'est un homme de cœur. La générosité est à gauche et l'ordre est à droite. Ça, c'est des trucs de Descartes. La générosité est à gauche. Ça, c'est la générosité du cœur. C'est les gens du cœur qui donnent passionnément, sont passionnés de tout. C'est l'ordre. Vous opposez la générosité et l'ordre. Et cette opposition, elle vient de Descartes. Elle vient de Descartes en ce sens que, pour Descartes, la volonté est une volonté d'efficacité. Et l'amour est toujours passionnel. Pour Freud, comme pour Descartes, il n'y a pas d'amour spirituel. Ça n'existe pas l'amour spirituel. Ça, quand vous êtes en face d'un freudien, faites de ce freudien votre ami. Et dans la mesure où il devient votre ami, vous lui montrez que Freud est faux. C'est ça qui est merveilleux. Vous faites la même chose avec un marxiste. Dans la mesure où vous aimez un marxiste et qu'il devient votre ami, vous lui montrez que le marxiste n'explique pas l'amour des mots. Parce que le marxiste n'accepte pas l'amour spirituel. Ça, c'est si important, ce que nous allons voir là. C'est très très important face aux idéologies modernes, qu'il s'agisse de Freud, qu'il s'agisse de Marx. Il s'agit de faire comprendre, et nous-mêmes, puisque nous sommes tous un tout petit peu abîmés, hein, tous un peu abîmés par Freud ou Descartes. Donc, pour Freud, il n'y a pas d'amour spirituel, il n'y a qu'un amour instinctif. C'est l'instinct. Il n'y a pas d'amour spirituel. Et pour Descartes non plus, et pour Marx non plus. Là, ils sont dans le même sac. La volonté est une volonté d'efficacité. Tout simplement. Vous voyez, stoïcien. Parce que pour le stoïcien, la volonté est une volonté d'efficacité. Et toutes les méthodes d'éducation qui sont plus ou moins stoïciennes, c'était de développer un volontarisme et de développer une volonté d'efficacité. Très curieux, ça. Alors, comprenons, il y a là quelque chose de faux. Il faut découvrir qu'il y a un premier amour en nous, un premier amour, qui est un amour volontaire, spirituel. Autrement, il s'agit de découvrir que la volonté est premièrement une capacité pour aimer. Capacité de vivre. La volonté est premièrement faite pour aimer. Elle n'est pas premièrement faite en vue de l'efficacité. Un grand cœur, c'est quelqu'un qui a une grande volonté. Alors évidemment, la volonté peut très bien s'abolir. Et alors, plus passer à l'efficacité. Et alors, à ce moment-là, le premier amour peut devenir une velléité. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais il faut comprendre que la volonté en nous est faite en premier lieu pour aimer. Vous allez me dire, vous nous dites ça a priori. Comment vous pouvez le prouver? C'est ça la difficulté. Comment vous pouvez le prouver? Je ne le prouve pas. Je vais essayer de le découvrir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le découvrir. C'est pas le prouver que ça existe en moi. Mais vouloir aimer et aimer, au niveau spirituel, c'est la même chose. Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce qu'on a beaucoup trop, la plupart du temps, quand quelqu'un vous dit « Ah, vous voulez m'aimer, donc vous m'aimez moi. » Je veux vous aimer, je vous aime. C'est en voulant vous aimer que je vous aime d'un amour spirituel. Parce que l'amour passionnel, c'est justement un amour qui est en dehors de la volonté. Mais l'amour passionnel n'est pas le sommet de l'amour. Le sommet de l'amour, c'est un amour spirituel. C'est cette capacité spirituelle que j'ai d'aimer et de vouloir aimer. L'amour a toujours en lui-même quelque chose qui est au-delà de la connaissance. C'est ça qu'il faut saisir. C'est ce que Pascal dit quand il dit que le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. C'est ça que ça veut dire, mais il faut bien comprendre que l'amour dépasse toujours la connaissance. Toujours. Je n'aime pas en fonction de la connaissance que j'ai du bien. J'aime le bien parce que c'est le bien, et non pas parce que je connais ce bien. Je le connais, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas la connaissance que j'ai du bien qui détermine mon amour. Ça, c'est capital à comprendre ça. Je crois qu'on peut tous le comprendre, parce que c'est une chose qui est très très importante. Je crois que la plupart, parce que nous verrons ça demain, la plupart des ruptures dans l'ordre de l'amour d'amitié proviennent de là. Bon, c'est une chose capitale de découvrir ça. Pourquoi tant de divorces? C'est quand même une question que doit se poser le philosophe. Pourquoi tant de divorces? Alors que quand les gens se sont mariés, je crois normalement ils s'aimaient. Alors évidemment, de temps en temps, on peut très bien, ils s'aiment pour autre chose. Hein. Mais je crois quand même. Alors, comment se fait-il que tant d'amour avorte? Tant d'amour n'arrive pas à se développer comme amour. Parce que le premier amour, hein, c'est très très beau, mais il faut éduquer son amour. Et on ne peut pas éduquer son amour par un autre. Hein. Je peux essayer de devenir obéissant grâce à l'autorité. Je peux essayer de devenir tempérant grâce à celui qui est là à côté de moi, qui me fait comprendre comment je le trouve. Mais quand il s'agit d'amour, je suis seul à pouvoir éduquer mon amour. Je suis seul à pouvoir éduquer mon amour. Mon amour ne peut s'éduquer que dans l'intérieur. Personne d'autre ne peut éduquer mon amour. Donc je suis totalement responsable de la croissance de mon amour. Si on disait ça aux gens, et si les gens comprenaient ça, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de divorce. Parce qu'un amour, ça s'éduque. Et on est responsable de cet amour, mutuellement. On est responsable mutuellement de cet amour. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à éduquer. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Toute l'éducation est en fonction de ça. Si j'essaie d'être vertueux, c'est pour pouvoir aimer plus. Et non pas l'inverse. C'est pas du tout, je sais pas, j'aime pas pour être vertueux. Non. Hein. La vertu est un moyen. Et l'amour est une fin. Donc il faut bien saisir ça. Et c'est dans le stoïcisme, la vertu est une fin. C'est ça la grande erreur du stoïcisme, c'est de considérer que ce qui est un moyen devient une fin. Toute la morale est ordonnée à la vertu. Alors que dans une véritable morale, toute la morale est ordonnée à aimer. C'est une capacité toujours plus grande d'aimer. Et si je suis vertueux, c'est pour canaliser ma passion et empêcher la passion de dominer l'amour volontaire. Mais c'est l'amour volontaire qui mesure mon amour et qui mesure toutes mes passions. Parce que l'amour ne peut pas être mesuré par autre chose que l'amour. La fameuse parole de Saint Bernard, qui est une très belle parole. C'est beau de voir que c'est moi qui dis ça. L'amour ne peut être mesuré que par l'amour. L'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour. Ça, c'est très très beau. Vous voyez, ça fait comprendre un tout petit peu l'histoire, vous savez, de la mère, une mère qui fait des reproches à son fils parce qu'il aime telle jeune fille qui n'est pas selon le goût de sa mère. Vous voyez, c'est des histoires qui arrivent de façon classique, ça. Un garçon commence à aimer une jeune fille, il ne dit rien à ses parents, c'est bien évident, au départ, il ne dit rien, parce qu'il ne comprendrait pas. Surtout s'il n'est pas tout à fait du même milieu. Alors, vous ne comprendrez pas. Alors, il n'est pas tout à fait dans le goût des parents. Alors, quand le garçon dit à sa mère qu'il va épouser telle fille, lui, il l'aime. Alors, il la regarde à travers son amour. C'est normal. Il la connaît en fonction de son amour. Et la mère, elle, ne l'aime pas, par définition, parce qu'elle ne la connaît pas. Si elle est énormément son fils, elle devrait le regarder avec l'amour de son fils. Mais ce n'est pas toujours ce qui arrive. Parce que ce sera... La belle fille. C'est fille. Donc, la mère ne l'aime pas a priori, elle le regarde attentivement. Puis alors, si elle voit tel ou tel défaut, non. T'en fais pour toi. Sois un petit peu raisonnable, sois un petit peu prudent, c'est pour la vie, tu sais. Et tu verras. Alors, on voit tout à fait les raisons. La mère donne des tas de raisons. Elle oublie que l'amour n'a pas d'autre raison que l'amour. C'est pour ça que ça ne porte pas. Ça ne peut pas porter. Si la mère était plus astucieuse, elle essaierait de regarder la personne aimée dans le regard même de son fils qu'il l'aime. Elle essaierait de l'aimer comme lui. Et en l'aimant comme lui, à travers cet amour, elle pourrait beaucoup plus facilement faire comprendre que peut-être cet amour pourrait grandir de telle ou telle manière, et ainsi de suite. C'est d'entrer, vous voyez, dans la logique de l'amour pour corriger l'amour. Parce que l'amour ne se corrige pas par des raisons. L'amour ne se corrige que par l'amour. Alors c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Hein. C'est que cet amour spirituel qui porte sur un bien spirituel, sur une personne, je ne sais pas à quel moment, ça c'est un très gros problème que je ne traite pas ici, qui serait très intéressant. Je ne sais pas à quel moment s'est éveillé en moi le premier amour spirituel. J'ai posé cette question à mes psychanalystes, je savais très bien qu'ils répondraient qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir. Hein. C'est pourtant très important. À quel moment s'est éveillé en moi le premier amour spirituel à l'égard d'une personne spirituelle? À l'égard d'une personne humaine. Et est-ce que le tout petit enfant, qui est dans les bras de sa mère, est-ce qu'il y a un amour spirituel ou uniquement un amour instinctif? Quand le petit enfant sourit à sa mère et qu'il est confiant et que seule sa mère peut le porter, si on le met dans votre main, ça ne va pas, ça crie. Est-ce que c'est un amour spirituel ou est-ce un amour instinctif? Vous voyez tout de suite les interprétations qu'on dira. Là, il faut interpréter. Parce que je ne me rappelle pas, vous non plus, j'en suis sûr. Je crois que si parmi vous, il y en a un, une, qui se rappelle du premier amour spirituel qu'il a eu, oh, venez me le dire, hein, ça m'intéressera beaucoup. Je crois que personne d'entre nous ne sommes capables de dire le premier amour spirituel qu'on a eu. On se rappelle bien un petit amour qu'on aime, un amour passionnel, un amour imaginatif, un amour, ça c'est très très, le premier amour spirituel. Alors, si on est chrétien, c'est peut-être le premier amour à l'égard de Dieu, premier moment d'adoration, premier amour. L'adoration, c'est un premier amour. Alors, est-ce que l'amour à l'égard de Dieu est né avant, si on a la foi, si on a reçu le baptême? Est-ce qu'il est premier avant l'amour des parents ou est-ce que c'est l'amour des parents qui est premier? C'est un très très gros problème, c'est un problème très très difficile à résoudre, qui est très intéressant. Je ne sais pas si on peut le résoudre. Je crois qu'il faut accepter que lorsqu'il s'agit d'un premier amour au plan génétique, hein, le premier amour, je crois qu'on ne peut pas dire de façon absolue que nécessairement chacun y a eu ce premier amour de cette manière-là. Je crois que l'amour naît toujours dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il est au-delà de la conscience. La conscience ne relève pas de l'amour. La conscience relève de l'intelligence. Je suis conscient de connaître. Ça oui, ça je peux le dire. Je suis conscient de faire de la philosophie avec vous. Et vous êtes conscient de faire de la philosophie avec moi. À la mesure où vous comprenez, vous êtes conscient. Alors à ce moment-là, il y a une interconscience. Hein, et on sait très bien. Et vous savez qu'à un moment, ah, là je comprends plus. Signal d'alarme, je comprends. Ah, ça je comprends. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est tout à fait juste. C'est ce que vous dites, c'est vrai. Là je comprends plus. Vous voyez, nous sommes conscients jusqu'où nous pouvons aller dans l'ordre de la connaissance. Mais l'amour est au-delà de la conscience. C'est le duvet du cœur, au-delà de la conscience.
Alors évidemment, si notre cœur brûle passionnément, on se dit oh, j'aime. Ça ne veut pas dire qu'on aime plus que quelqu'un qui aime d'une autre manière, avec un peu moins de volume, n'est-ce pas, mais qui aime d'une façon peut-être plus profonde, d'une façon plus spirituelle. L'amour spirituel est un amour qui est au-delà de la passion. C'est au-delà de la passion. Alors, c'est très important d'essayer de comprendre philosophiquement ce premier amour, vous voyez. Alors, vous allez me dire, mais comment vous pouvez le comprendre? Oui, parce que actuellement, je peux avoir certains amours d'amitié. Je peux aimer telle personne. Je peux aimer Dieu. Actuellement, je suis capable d'aimer et j'aime. S'ils ne m'ont pas du tout maintenant, c'est très difficile à comprendre. Nous avons tous quand même certaines expériences dans de l'amour. Et de l'amour spirituel, de l'amour d'amitié. Et l'amour d'amitié, d'amour à l'égard de Dieu, à l'égard du Christ. Nous avons cet amour. Si j'analyse cet amour, ce que nous ferons demain, si j'analyse cet amour, je vois qu'il y a la racine de cet amour, un premier amour spirituel qui s'est élevé, qui est un amour volontaire et qui porte sur une personne. Et ça, c'est au fond, ce qu'il y a de fondamental. Et c'est actuel, hein. Cet amour est actuel en moi. Si j'aime d'un amour d'amitié une personne, il y a nécessairement ce premier amour à l'égard de Dieu. Mais encore une fois, comprenez bien, je ne veux pas savoir à quel moment s'est éveillé ce premier amour. Je ne crois pas. Parce que cet amour est quelque chose de caché. Alors, ce que j'essaie de comprendre maintenant, c'est de voir que cet amour spirituel à l'égard d'une personne implique nécessairement une connaissance. Une connaissance de l'intelligence. Donc un jugement. Je ne peux pas aimer spirituellement et volontairement sans connaissance. Je connais ce bien. L'enfant